la rater. Elle n'aime pas ça, rater quelque chose, faillir à ses obligations. La fiabilité, pour elle, ça veut dire beaucoup. À quoi bon faire les choses si on les fait mal? Elle boude. Elle est vexée. Monsieur comprendra qu'elle a du travail à la cuisine, dans la buanderie, du ménage, du lavage. Elle est domestique, pas dame de compagnie. Et elle le plante là. Blaise est surpris. Une fois de plus. L'insolence de cette fille. Elle le dorlote, le cajole, puis elle le laisse tomber pour aller faire la vaisselle. Il n'est pas habitué à ce qu'on lui parle autrement qu'avec une forme de crainte, au moins une certaine déférence, ou simplement de la pitié. Les précédentes bonnes, même les plus incompétentes, ne le regardaient jamais dans les yeux. Elle semblait toujours un peu perdue face à son visage détruit. Elle fixait le sol pour ne pas voir ses mains qui n'en étaient plus, ses jambes de pantalon sans pied. Il s'en amusait presque. Quand on n'a guère de distraction, on prend tout ce qui passe. Elle s'adressait à lui comme à une bête furieuse, articulant à outrance comme s'il était sourd en plus du reste. Elle n'osait rien lui refuser, rien lui demander. Il en jouait beaucoup, les faisait tourner en bourrique. Aucune n'était restée bien longtemps. Mais cette petite-là s'adresse à lui comme s'ils étaient sur un pied d'égalité. Pourtant, elle a bien vu. Elle a tout vu. Plus que bien d'autres. Elle ne le ménage pas. Elle est incontrôlable. Avec elle, il sent monter quelque chose de nouveau qui lui donne vaguement le vertige. Il est piqué au vif. Il voudrait parvenir à l'atteindre, à la diriger malgré elle, s'il le faut. Il a son projet bien en tête et le temps presse. Elle pourrait très bien le faire. Elle lui en a donné toutes les preuves. Et pourtant, elle se rebelle. C'est agaçant. C'est surtout que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un d'autre que lui l'intéresse. Il l'appelle. Elle doit bien lui obéir. Il reste le maître. Il lui désigne du moignon, une étagère chargée de ses galettes noires qui font de la musique. Elle doit sortir l'une d'elles, la faire jouer sur l'étrange instrument au gros cornet brillant posé sur la console d'acajou. Elle s'exécute docile. Sur ses indications, elle avance le bras, pose l'aiguille dans le premier sillon de la galette encore muette. Ça se met à tourner. Elle tremble un peu, elle craint de mal faire. Monsieur a l'air satisfait. Elle pense, il aime bien quand elle lui obéit. La musique jaillit, basse, d'abord, ce doit être du violon, elle n'en sait rien, elle se dit ça comme ça. Elle s'apprête à se retirer à la cuisine, elle a mis à bouillir des légumes pour la soupe du soir, mais une voix s'élève. Pas celle de monsieur. Des voix par dizaines, si nombreuses, si graves, de plus en plus puissantes. Elles articulent en se lamentant. Elles la happent, la retiennent. Elles semblent monter du sol, sortir des murs. Elles tourbillonnent autour d'elles. Des esprits, des âmes au désespoir infini. Elles lui fendent le cœur. Quand elle s'interrompt, elle ose à peine respirer. Et si ça s'arrêtait? C'est seulement pour mieux reprendre. Soudain, c'est différent. Une femme chante, seule, timbre pur, aérien. Sa voix vibre, soutenue par toutes les autres qui l'entourent pour pleurer avec elle. Immobile au milieu de la pièce, elle est saisie, pétrifiée. Comment ces voix entremêlées savent à ce point dire ses émotions violentes, contradictoires, ce que son ventre lui souffle, ce qui résonne dans son cerveau. C'est lourd et léger à la fois. C'est un grand tumulte qui l'emporte loin, loin de chez les Daniel, loin de ses rêves étriqués, de bicyclettes, de longues nuits de sommeil, loin aussi des colères, des rages, des coups qui tombent et ne préviennent pas.